toutes et à tous. Vous écoutez une émission qui a été enregistrée hier, pour vous qui l'écoutez, ce mardi 26 septembre. Elle a été enregistrée hier, lundi 25 septembre. Et donc, il y aura peut-être un petit décalage dans l'actualité, mais pour l'essentiel, les sujets que je vais aborder sont de taille. Et j'allais dire, je pensais à un titre très célèbre d'un économiste, mais qui faisait référence à une autre période, qui est un économiste tchèque, qui s'appelle Karl Polanyi, ça s'appelle « La grande transformation ». Et en fait, il y aura de quoi, dans la période où nous vivons, il y aura de la place pour qu'un historien, un essayiste reproduise le même titre, la grande transformation numéro 2, car c'est ce qui est en train de se passer sur la planète en ce moment. Bon, soyons brefs et allons directement au sujet. Je vais commencer par ce que je considère comme un événement très très positif pour la suite des opérations et par rapport à une page qui se tourne par rapport à un passé douloureux, c'est-à-dire c'est la réception du président syrien Bachar el-Assad et de son épouse Asma el-Assad par la Chine et directement par le président chinois à l'invitation de celui-ci. Ça, c'est tout à fait important, puisqu'il en est sorti donc une série d'engagements de soutien de la Chine à la Syrie donc en cours de libération. Et ça, ça pèse d'un poids extrêmement lourd. Et ça s'explique dans le contexte qui est le suivant. Il faut savoir, je ne sais pas si on en avait parlé à l'époque, que la Syrie avait adhéré, donc c'était à l'automne 2022, à l'engagement, donc la route de la soie, la route de la soie, donc qui fait de tous les partis ou tous les pays qui signent des accords avec la Chine populaire pour adhérer à la route de la soie deviennent des partenaires économiques avec lesquels on peut avoir des projets d'investissement communs, des projets d'activité commune. Et donc la Syrie était devenue partenaire donc de la route de la nouvelle route de la soie à l'automne 2022. Et donc la visite du président Bachar el-Assad et de son épouse à Pékin est la concrétisation de cette signature. Donc désormais, écoutez-nous bien, ceux qui disent du mal des uns et des autres, désormais la Syrie fait partie des amis de la République populaire de Chine. Que ce soit bien clair, pour ses voisins, le voisin israélien, le voisin turc et quelques autres, c'est ça la nouvelle réalité du monde. Et la visite de Bachar el-Assad à Pékin a cette signification-là. Et elle est lourde. Elle est lourde parce que, en fait, vous savez qu'au bout de donc 12 ans maintenant de guerre fomentée par l'extérieur en Syrie, la Syrie a énormément souffert. Elle a survécu. Le régime, le gouvernement a survécu. Elle a beaucoup perdu de richesses, beaucoup perdu d'hommes. Et encore aujourd'hui, une partie de son territoire est occupée par des adversaires. Adversaires qui sont présentés comme des terroristes islamistes, mais qui en fait sont protégés et quelquefois même alimentés en armes, alimentés en argent par les États-Unis eux-mêmes qui ont des soldats sur place et qui contribuent à piller la partie nord-est du territoire syrien. Bon, ça, à partir du moment où le président chinois dit « voilà, le régime syrien, le président Bachar el-Assad, son gouvernement et son peuple sont mes amis », ça va faire réfléchir beaucoup les penseurs, si j'ose dire, de Washington. Ça change totalement les données. Alors je dis, ça ne fait que confirmer la signature donc, d'adhésion à la nouvelle route de la soie, mais tout ça est porteur d'énormes possibilités pour des développements économiques, pour la reconstruction du pays qui a beaucoup souffert de ces 13 ans de guerre, et pour un peu plus que ça, des investissements chinois. Et puis la route de la soie, je m'arrête là-dessus parce que c'est aussi un projet logistique, un projet de transport. Ça veut dire que quelque part, il sera prévu de faire passer des voies de circulation arrivant de la Chine via, on ne sait pas, l'Iran, le Kazakhstan, peu importe et tout, qui passeront à travers la Syrie et qui déboucheront sur un port méditerranéen. Vous savez que la Syrie a deux grands ports méditerranéens, l'un Tartous, l'autre Latakié. C'est-à-dire que la marchandise venant de Chine et dans l'autre sens une marchandise d'Europe qui irait à destination de la Chine pourra traverser la Méditerranée et partir directement dans l'autre direction. C'est ça que ça veut dire, ça n'est pas rien. Et je pense que ça n'est pas rien en pensant au grand voisin de la Syrie qui lui veut tant de mal, même si il a des discours et des postures qui font croire qu'il n'est pas fâché vraiment. Je pense à la Turquie d'Erdogan. Erdogan a tout fait pendant ces 13 ans pour que le régime l'imam de Damas tombe, a tout fait pour compliquer les choses, a laissé passer des terroristes islamistes, les a armés, les a soignés quand ils étaient blessés dans ses propres hôpitaux. Et donc maintenant, quand il voit qu'effectivement la route de la soie va déboucher, non pas quelque part dans un port de la côte turque, mais dans un port de la côte syrienne, il n'a que la monnaie de sa pièce. Il est à l'OTAN. Hein, donc le fait que la Turquie soit dans l'OTAN fait que, normalement, la Chine considère qu'elle doit se méfier. Elle fait partie des adversaires déclarés de la Chine populaire. Et donc, tant pis pour Erdogan, et tant pis, alors, tant pis pour sa population qui le suit. Autant de fois, autant d'années, elle le suivra, ça sera comme ça. On ne peut pas être à l'OTAN et avoir tous les bénéfices de la route de la soie. Il faut choisir. Alors, la Syrie a été claire dès le début. Elle en a énormément souffert, mais elle a été claire. Et maintenant, elle commence à dire, ben, j'avais raison. J'ai tenu le choc et donc maintenant je suis du côté du bloc, d'un autre type, puisqu'on en a déjà parlé, des BRICS, parce que la Chine a reconnu qu'elle allait m'aider, que je fais partie de ses amis et de ses partenaires économiques. Bon, bonne leçon pour M. Erdogan, mais on ne peut pas être chez tout le monde à la fois. Alors on sait que c'est caractéristique du personnage, il n'est pas fâché avec la Russie, mais en même temps, il fait tout ce qu'il faut pour qu'il y ait des armes turques qui arrivent sur le sol ukrainien, etc. Bon, donc, allez, ne nous éternisons pas sur le personnage, on en a fait le tour. J'espère qu'un jour, les citoyens turcs en feront eux-mêmes le tour et qu'il y aura une alternative à cette politique-là, mais qui montre ses limites, d'autant plus que la crise économique turque n'est pas négligeable et qu'elle devrait produire quelques effets sur la popularité de son chef. Voilà pour la bonne nouvelle, même si elle est avec des perspectives à moyen et long terme, la très bonne nouvelle de la semaine dernière. Et puis je vais m'arrêter sur un conflit dont tout d'un coup on s'est mis à vous parler. Alors c'est assez amusant d'écouter les radios et les télévisions officielles. On s'est mis tout d'un coup à vous dire « Oh là là, il y a un drame humanitaire en Arménie ». Alors ça a rempli très vite les chroniques internationales. On n'en parlait pas du tout. Et tout d'un coup, il y a un drame humanitaire. Alors revenons pour bien expliquer la situation. Pourquoi tout d'un coup, on a découvert qu'il y avait un drame humanitaire? Alors il y a eu effectivement une action de l'Azerbaïdjan sur le territoire d'un petit morceau dont on a déjà entendu parler, qui est un petit morceau donc, du territoire de la République d'Azerbaïdjan, qui est occupé, encore jusqu'à aujourd'hui, par des Arméniens. Alors ça, ce n'est pas une surprise, puisque en fait, les Arméniens, qui sont un des plus anciens peuples de cette région, je rappelle que l'église d'Arménie a été fondée au IIIe siècle après Jésus-Christ, donc ils ont une vraie antériorité sur le territoire, mais l'Arménie est passée par tous les états, toutes les tailles, elle a été grande, petite, découpée, massacrée, génocidée, etc. Bon, il reste qu'il y a une culture arménienne, une langue arménienne, une église arménienne, donc une identité arménienne, pour utiliser ce mot qui est assez connu. Et il se trouve qu'effectivement, dans la suite de toute une série d'accidents historiques sur lesquels je ne vais pas m'arrêter, il y a des Arméniens à l'intérieur de la République d'Azerbaïdjan. J'insiste là-dessus, le territoire, donc on appelle le Haut-Karabakh, c'est ce que vous avez entendu, ou Artsakh en arménien, est un territoire azéri et ça n'est contesté par personne. C'est-à-dire, personne ne peut vous dire, ni à l'ONU, disant en aucune juridiction internationale, qu'il s'agit d'un territoire arménien. Il s'agit d'un morceau de l'Azerbaïdjan qui est occupé par des Arméniens. Bon, c'est ça la réalité. Et donc, par rapport à ça, il ne faut pas tomber dans le piège en disant « il faut sauver l'Arménie ». Ce n'est pas du tout ça. L'Arménie elle-même, alors, à un moment donné, la population arménienne du Haut-Karabakh, de l'Artsakh, a dit qu'elle était un État et qu'elle se rattachait à l'Arménie. Et l'Arménie elle-même a dit qu'elle n'en voulait pas. L'Arménie n'a pas reconnu l'État du Haut-Karabakh. Donc elle a dit « Oui, je sais qu'il y a des Arméniens, j'essaye de les aider comme je peux, mais ce n'est pas chez moi. Hein. Je respecte les frontières telles qu'elles sont, et les frontières sont parfaitement claires, elles sont acceptées par tout le monde. Le territoire de l'Artsakh, il est sur le territoire de l'Azerbaïdjan. Bon. » Que les choses soient absolument claires là-dessus. Alors après, il s'est passé des tas de choses, c'est-à-dire que tant qu'il y avait l'URSS, l'Arménie et l'Azerbaïdjan étaient dans la même union des républiques socialistes soviétiques, donc il y avait des Arméniens ici, dans différents coins, il y avait des Azéris même à l'intérieur de l'Arménie, il y avait des Azéris ici ou là, bon, il y avait des Azéris à Moscou, il y avait des Arméniens à Moscou, bon, tout ça se mélangeait, même si c'était pas le grand amour, parce qu'il faut savoir que l'Azerbaïdjan comparé à l'Arménie, c'est 100 ans d'histoire, alors que l'Arménie l'Arménie, c'est presque 2000 ans. Bon, c'est, mais de fait, l'existence de l'URSS faisait qu'on s'acceptait les uns les autres, puisque ce n'était pas le seul cas. Il y avait des tas de populations diverses, et ça reste encore vrai, sur le territoire de la Russie actuelle. Dès l'instant où l'URSS disparaît, à ce moment-là, chacun devient indépendant. L'Arménie devient indépendante, l'Azerbaïdjan devient indépendant. Et là, on se met à ressortir, enfin, ou ressort assez naturellement, puisqu'il n'y a plus cette union qui était imposée un peu par le sommet. Il n'y a plus cette union dans l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et là, les vieilles chicaïas, les vieux conflits de frontières ressortent. Et puis on s'aperçoit qu'effectivement, qu'il y a des Arméniens qui habitent dans l'Azerbaïdjan, qu'il y a quelquefois aussi des Azéris qui habitent dans d'autres territoires, bon, que ça est mélangé. Et ça va déboucher, non pas sur une action des Azéris, je le rappelle, en 1994, c'est l'Arménie qui décide d'annexer d'une certaine façon le territoire du Haut-Karabakh. Donc une guerre qui est gagnée par l'Arménie, qui fait que ce petit territoire inclus dans l'Azerbaïdjan devient, pour vu d'Erevan, vu de la capitale d'Arménie, un territoire de l'Arménie. Et puis il ne s'arrête pas en si bon chemin, c'est-à-dire que comme ce territoire est coupé de l'Arménie, puisqu'il y a un espace entre les deux, c'est une espèce d'îlot arménien, les Arméniens petit à petit vont grignoter pour faire un passage assez large entre l'enclave Artsakh, l'enclave au Karabakh, et le territoire arménien. C'est-à-dire ils vont conquérir et occuper des territoires azéris où il n'y a pas un seul Arménien qui habite. Alors ça ne plaît pas forcément aux Azéris, et on le comprend, ils disent « mais vous êtes chez nous, alors non seulement il y a un bout que vous avez annexé, mais en plus vous annexez des territoires où il n'y a aucun Arménien ». Donc même la justification de dire « on vient sauver les Arméniens » ne tient pas pour ces morceaux-là. Ce qui va déboucher sur la guerre de 2020, beaucoup plus tard, où là l'Azerbaïdjan va dire « non, non, maintenant ça suffit, ces territoires que vous m'avez pris indépendamment du Haut-Karabakh, moi je les veux, ils sont à moi ». Et ça c'est absolument incontestable. Aucune juridiction ne pourrait dire que l'Arménie est propriétaire et souveraine sur ces territoires-là. L'Arménie n'a pas à annexer une partie du territoire de l'Azerbaïdjan. Bon. On en était là en 2000, et vous vous souvenez peut-être qu'en 2000, ça se passait assez mal, puisque l'Azerbaïdjan a décidé par la force militaire et avec l'appui de la Turquie, qui est un de ses alliés, je reviendrai là-dessus, a décidé de reconquérir ce que l'Arménie lui avait pris, ce qui fut fait. Et qui a cessé à la fin de la partie, j'allais dire, c'est la Russie qui est venue dire « maintenant arrêtez, parce que partis comme vous êtes, chacun massacrant l'autre en souvenir du précédent massacre, on ne va pas s'en sortir ». Et donc la Russie a obtenu un cessez-le-feu et elle a dit « on établit quand même un couloir pour que les habitants de l'Artsakh puissent aller en Arménie, puisqu'ils le veulent, ils sont arméniens, on établit un couloir dont nous assurons la protection avec des hommes en armes, avec des hommes russes en armes, qui n'ont pas le droit de se servir de leurs armes ». C'est écrit dans l'accord d'armistice. C'est très très précis, c'est juste une protection, c'est comme un douanier, si vous voulez, qui protège juste une route pour aller de l'enclave au territoire arménien. On en était là. On en était là, donc avec un problème juridique qui est parfaitement clair. Le Haut-Karabakh n'est pas une province arménienne et ne le sera pas, et personne n'a pensé le faire. Même l'Arménie a reconnu que ce n'était pas un morceau du territoire arménien. Donc il faut en sortir. Et nous en sommes en gros là. Nous en sommes en gros là, mais on a tout. Alors tout d'un coup, il dit les Azéris se mettent à attaquer les Arméniens du Haut-Karabakh, etc. Ils vont tous les éliminer. Enfin, on nous ressort un génocide. Alors effectivement, je reconnais que l'Arménie a subi un génocide, mais c'était pas les Azéris, c'était les Turcs. Hein. Soyons clairs là-dessus. Et donc on nous ressort ça, on fait frémir dans les chaumières. Non, mon Dieu, c'est épouvantable, ces pauvres Arméniens. Mais on, qui est on? Et c'est là qu'il faut aller un peu chercher dans les coulisses de l'information. Alors les coulisses de l'information, elles sont très très simples. Il y a deux lobbies arméniens, il y a des Arméniens partout dans le monde, parce que ce n'est pas les 2,5 millions d'Arméniens qui restent sur le sol de l'Arménie qui expriment la parole arménienne. Il y a des Arméniens partout, il y en a beaucoup en Amérique du Nord, il y en a au Liban, il y en a en Syrie, enfin, il y en a dans toute cette région du monde. Et donc, en fait, il faut le savoir, et c'est là-dessus qu'on n'a pas été très bavard sur les ondes officielles, des lobbies, deux lobbies, les deux principaux lobbies arméniens qui défendent la cause arménienne, je mets ça entre guillemets, sont aux États-Unis et en France. que les choses soient claires. Alors, ce n'est pas une surprise pour un Marseillais, le Marseillais que je suis, et les Marseillais qui nous écoutent. On sait que la présence arménienne est très forte à Marseille et qu'elle est organisée, c'est-à-dire que la communauté arménienne continue à exister, même si ça fait 50 ans ou 100 ans qu'elle a quitté le pays. C'est un groupe fort. Et toute personne, alors c'est un petit côté des choses, mais qui fait une campagne électorale pour les municipales ou pour les cantonales à Marseille, c'est que les voix arméniennes, c'est presque un bloc. C'est-à-dire, dès l'instant où on a mis le lobby arménien dans sa poche, les voix vont toutes du même côté. Madame Vassal, par exemple, sait très très bien faire ça. Gaston Defer savait le faire aussi, etc. Bon. Donc, il y a une vraie permanence de la culture, de la référence arménienne dans les communautés dispersées. Et cette permanence est particulièrement forte en France, et à Marseille encore plus que dans le reste de la France. Donc on le sait. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la réaction extraordinairement vive en disant « un nouveau génocide », puisque j'ai même vu le terme, était tout à fait disproportionnée. On parle, alors il faut regarder dans les dépêches de la presse russe, une dizaine de morts. Donc on n'est pas tout à fait au génocide. Il y a en gros entre 100 et 150 000 Arméniens sur le territoire de l'enclave, pas plus. Ce qui va se passer, alors, ce qui va se passer, on a dit que c'est la Russie qui doit intervenir. Alors, l'idée du lobby états-unien et du lobby français, du lobby arménien des deux côtés, et qui était relayée évidemment par le département d'État, c'était de dire on va piéger Poutine. Alors, j'explique pourquoi. L'Arménie a signé un traité de défense collective avec la Russie. Bon. Et donc, l'idée, c'était de dire, puisque les Arméniens ont des ennuis, même si c'est plutôt les Arméniens de l'enclave, mais pas les autres, la Russie va être obligée de s'engager militairement. Or, il faut que les choses soient très claires. Dans le traité d'organisation de la sécurité collective, la Russie s'engage à défendre l'Arménie, et pas une enclave en Azerbaïdjan. D'ailleurs, il se trouve qu'en plus, l'Azerbaïdjan est aussi membre du traité de sécurité collective. Donc, on nous fait peur, vous savez, le diable Poutine, le méchant avec le couteau entre les dents qui met de la guerre partout. C'est pas possible. Et d'ailleurs, alors, ce qui est intéressant à suivre dans ce dossier qui ne va pas s'arrêter dans un jour, c'est que le président arménien, M. Pachinian, a été actionné. Enfin, c'est l'analyse que je vous lis, actionnée par les lobbies arméniens des États-Unis et de France et par le département d'État, pour dire maintenant, il faut mettre le feu parce que ça va compliquer la tâche des Russes. Et en fait, il est en train de se rendre compte, vu les réactions des uns et des autres, que ça va peut-être pas compliquer la tâche des Russes, parce que la réponse des Russes, à partir du ministère des Affaires étrangères, ça a été de dire non, le traité de sécurité collective garantit la protection de l'Arménie, pas du reste. Si on doit protéger, alors sous-entendu, c'est moi qui fais le soir, si on doit protéger tous les territoires ou tous les quartiers des villes où il y a des Arméniens, ouais, alors ils vont... La Russie va envoyer des troupes dans certains quartiers de Marseille et tout. Mais personne ne veut de mal aux Arméniens à Marseille, c'est pas le problème. Bon. Voilà, je voulais d'abord resituer cette opération donc perverse de propagande, qui est d'abord une propagande anti-russe, c'était clair, on voulait les mettre au pied du mur en disant « ils vont intervenir, c'est encore eux, etc., les fauteurs de guerre, etc. » Non, c'est pas ça. Il y a un problème de droit international qui est très très clair. Cette minorité arménienne sur le territoire, alors c'est dans l'accord de cessez-le-feu de 2020, elle ne doit pas être passée par les armes, c'est l'évidence, bien entendu. Mais c'est dans les grands, ça a été reconnu par le gouvernement d'Azerbaïdjan. Alors après, qu'il y ait dans le territoire de l'Azerbaïdjan ou des gens qui essayent de mettre de l'huile sur le feu, c'est bien possible, qui essayent de mettre ça en avant, on va éliminer tous les Arméniens, c'est pas la signature du président Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan actuel. C'est d'autant moins la signature que je vais quand même dire deux mots sur ce président qui est le fils de son père. Là, rien de surprenant. Mais qui était son papa? Son papa, Ilya Aliyev, alors était un citoyen soviétique du temps, et il était général du KGB. Pas un citoyen tout à fait ordinaire, vous allez dire. Et donc il vivait à Moscou, il était général du KGB, donc à des postes de direction des services secrets soviétiques. Et en fait, au moment où l'Azerbaïdjan est devenu indépendant, il était à Moscou, il était fonctionnaire des services secrets soviétiques. Et donc il a vu qu'il y avait une espèce d'emprise islamiste et tout. Enfin, il a bien compris que son pays, qui était l'Azerbaïdjan, menaçait de passer, de prendre des chemins un peu inquiétants. Et il a pris le pouvoir un peu par la force en 1994. Et son fils lui a succédé. Et donc on a affaire à des gens qui connaissent très très bien la musique. musique, qui savent très très bien quel rapport ils entretiennent avec la Russie, parce qu'ils les entretenaient déjà avant l'Union soviétique, et donc qui ne sont pas prêts à faire des folies, à faire des coups de tête, etc. Ça, c'est une donnée globale, donc la situation va probablement s'améliorer, se régler petit à petit, parce qu'il faut bien, et tout le monde va dans ce sens, et donc ça veut dire l'espèce de feu de forêt qu'on nous a fait allumer là, ces jours-ci, à propos par le lobby arménien, ou qui soit, va s'éteindre parce que personne n'y a intérêt, et parce que par ailleurs, le président arménien s'aperçoit qu'il ne peut pas aller bien bien loin sur ce terrain-là, et que en plus, ses amis qui l'ont incité à mettre le feu ne sont pas prêts à faire grand-chose et surtout ne sont pas capables de faire grand-chose. Parce que va faire l'armée des États-Unis ? Rien du tout. Elle peut pas, l'armée des États-Unis ne va pas intervenir sur le territoire de l'Azerbaïdjan, avec lequel ils essayent d'ailleurs de ne pas se refâcher. Qui pourrait intervenir ? La Turquie. Mais la Turquie n'aura sûrement pas la mauvaise idée d'aller mettre ses pieds dans une république qui est défendue par la Russie. Et donc, en fait, on va rester sur cette espèce de crise politique fabriquée, et puis il va falloir trouver une solution. D'autant plus que, quand j'ai parlé de cette enclave arménienne sur le territoire de l'Azerbaïdjan, je ne vous ai pas parlé du deuxième problème dont personne ne veut parler, parce qu'il est bien plus embêtant, et lui, il faisait partie aussi des dispositions du cessez-le-feu de 2020. C'est le cas de la République autonome du Nakhitchevan. Qu'est-ce que c'est que cette aventure-là ? Ben regardez sur un atlas la carte de l'Arménie, pour faire simple. Vous avez donc l'Arménie au milieu, l'Azerbaïdjan à droite avec au milieu, quelque part, l'enclave arménienne. Et puis, il y a un autre morceau qui est considéré comme Azerbaïdjan, qui s'appelle la République autonome du Nakhitchevan, qui n'a aucun lien physique et géographique avec l'Azerbaïdjan, et qui pourtant fait partie de l'Azerbaïdjan. Ça s'appelle la République autonome du Nakhitchevan. Ah, alors la République autonome du Nakhitchevan, c'est environ 400 000 Azéris. Il y a eu, à une certaine période, il y avait quelques Arméniens qui vivaient là, ils sont partis, donc c'est des Azéris, il n'y a pas de doute, qui a sur son côté ouest une longue frontière avec l'Iran. L'Iran n'est pas un ami de la Turquie, hein, je rappelle, et qui a donc du côté est une longue frontière avec l'Arménie, et du côté sud, c'est encore l'Iran. Du côté nord, c'est la Géorgie, et le seul poumon d'oxygène, la seule route qui existe pour sortir de cette province qui est en Azerbaïdjan, mais qui n'est pas en Azerbaïdjan, puisqu'il faut l'avion pour y aller depuis Bakou, c'est 10 km de frontière avec la Turquie. C'est-à-dire que les 400 ou 500 000 habitants de cette province autonome de l'Azerbaïdjan ne pourraient pas manger, ne pourraient rien faire, ne pourraient pas exporter, ne pourraient rien importer, etc., s'ils n'avaient pas la Turquie qui les aidait. C'est ça, là. Et en fait, la question qui se pose est de réintégrer, par qu'un moyen à définir par tous les voisins, donc tous ceux, hein, ça veut dire mettre d'accord l'Arménie, l'Iran, l'Azerbaïdjan et la Turquie sur qu'est-ce qu'on fait de ce morceau d'Azerbaïdjan où personne ne peut aller sauf les Turcs. Eh bien, il faut trouver un passage. Il faut trouver un passage qui géographiquement s'impose, c'est-à-dire c'est un passage au sud de l'Arménie, quelque part entre l'Arménie et l'Iran. Il faut que tous ces gens-là soient d'accord. Donc c'est un gros enjeu géopolitique, d'autant plus que si ce passage se fait, et il s'appelle le passage de Jean Gusur, il est connu et tout, si ce passage se fait, ça veut dire que, je reprends toujours mon histoire de route de la soie, puisque tout ça est récurrent derrière ça, ça veut dire que des marchandises venues de Chine, passant par le Kazakhstan, descendues par la Russie et tout, pourraient, là encore, passer à cet endroit-là et rentrer en Turquie. Oui. Mais pour l'instant, on ne passe pas. On ne passe pas, puisque l'Iran ne veut pas laisser passer, l'Azerbaïdjan ne peut rien faire, et l'Arménie ne veut rien faire non plus. Donc, voilà le vrai dossier. Enfin, il y a le dossier des 100 000 habitants du Haut-Karabakh, mais voilà le vrai dossier qui est derrière. Alors, pourquoi il y a des dossiers aussi compliqués ? Il faut savoir, et là, il faut remonter très très loin dans l'histoire, que cette zone, donc la zone de Sud-Caucase, disons, Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie, Iran, etc., est une zone limite entre tous les empires. Et elle l'est depuis des millénaires comme ça. C'est-à-dire que l'Iran, c'est la zone de l'empire perse. Hein, vous savez que les Perses ne sont pas des Arabes. Hein. La Turquie, c'est les Ottomans, on le sait, mais ils ne se sont jamais entendus bien avec les autres. On est au raccord entre l'Empire russe historiquement, l'Empire perse, historiquement, l'Empire ottoman, historiquement, avec au milieu ces Arméniens qui, décidément, sont incasables, puisque là, c'est les vieux chrétiens qui sont là depuis 300 ans après Jésus-Christ. Bon. Mais donc, dans ces nœuds diplomatiques, dans ces nœuds géopolitiques, il ne faut surtout pas d'énervement, parce que l'énervement produit des crises, des colères, des affrontements, des liquidations, des bains de sang, etc. C'est une affaire délicate, mais elle va se régler, à mon avis, en ce sens que désormais, l'Iran, qui est dans les BRICS, avec donc la Russie, la Chine, etc., va commencer à peser son poids en disant « oui, il faut que ça passe, il faut que les frontières s'ouvrent normalement, que le commerce puisse s'installer ». Ça fait partie de la politique des BRICS. Laisser circuler les intérêts matériels, laisser circuler les marchandises, ouvrir les frontières et arrêter de bloquer tout parce qu'il y a un problème de 100 000 habitants arméniens sur le territoire de l'Azerbaïdjan. C'est pas simple, mais il faut que ce soit sur la table. Et désormais, je considère qu'avec l'entrée de l'Iran dans les BRICS, c'est sur la table. Avec en plus l'entrée de la Syrie. Alors, je fais écho à ce que je disais tout à l'heure. En fait, le passage par la Syrie, la route de la soie, fait concurrence, en fait, par le passage par la Turquie. C'est l'un ou l'autre. Hein. Ça, si ça marche en Syrie, à la limite, le passage par le nord, donc par la Turquie, aura beaucoup moins d'intérêt. Là encore, c'est à Erdogan de voir qu'est-ce qu'il préfère. Est-ce qu'il reste à l'OTAN ? Non, je ne sais pas. Je cherchais dans ma tête, je crois qu'aucun pays n'est jamais sorti de l'OTAN. Il y a des pays... Ah non, la France est sortie que du... De Gaulle est sorti du commandement militaire intégré, mais n'a pas du tout rejeté. Donc on n'a pas de cas. Qu'est-ce qui se passerait ? Et on peut rêver, mais je ne sais pas comment on peut imaginer la situation, parce que ça voudrait dire « je me fâche avec les États-Unis ». Quel est le pays de l'OTAN qui dirait maintenant « je vous ai assez vu hein. » On cherche sur la carte. Et pourtant, c'est une vraie question. Alors qu'il est prévu pour l'Union européenne, il est prévu dans les traités, ça a marché, on le sait que c'est prévu dans les traités, on peut sortir de l'Union européenne, pour l'OTAN, ça n'a jamais été expérimenté. Et c'est un vrai problème pour la suite de l'histoire. On verra. Bon, une fois que j'ai dit ça, j'ai dit pas mal de choses, je regarde l'heure tranquillement, et je vais passer beaucoup plus de temps à vous parler de ce qui s'est passé. Ah non, un petit crochet par Israël, puisqu'on en a parlé ici ou là. J'ai retrouvé, c'est très intéressant, un texte signé par un certain nombre d'intellectuels juifs en 1948. Et parmi ces intellectuels juifs que beaucoup ne connaîtront pas, il y en a deux dont les noms sont extrêmement connus. Il y en a un qui s'appelle Albert Einstein, et l'autre, c'est une dame, s'appelle Hannah Arendt. Et qu'est-ce qu'ils font ? En décembre 1948, ils font un article dans le New York Times pour dire la façon dont l'État d'Israël s'installe avec à sa tête Menachem Begin, terroriste caractérisé, est une façon extrêmement inquiétante. Parce que ce qui se passe, donc, dès l'instant où l'ONU vote la création de deux États, je précise, c'est que l'État d'Israël, qui lui est bien organisé, les autres sont plutôt organisés, enfin ils sont sous la tutelle du roi de Jordanie, il se passe ce qu'on appelle la Nakba, c'est-à-dire que le gouvernement israélien décide de faire partir le maximum d'Arabes des territoires que Israël veut conquérir. Ça ne s'est pas arrêté depuis. Ce que disent donc ces intellectuels juifs, donc ces deux personnages phares, puisque on les connaît, tout le monde les connaît, Einstein et Hannah Arendt, c'est qu'il faut que ça s'arrête. Et ils disent des choses assez particulières. Donc je vais vous lire la conclusion. Vous allez entendre. Je l'ai sous les yeux et ça dit. Les contradictions entre les affirmations en or faites actuellement par Begin, donc son parti, et les rapports de leurs performances passées en Palestine donnent l'impression d'une politique peu ordinaire. C'est le timbre indubitable d'un parti fasciste pour qui le terrorisme contre des Juifs, des Arabes ainsi que les Britanniques et les fausses déclarations sont des moyens et un État leader est l'objectif. À la lumière des observations précédentes, il est impératif que la vérité au sujet de M. Begin et de son mouvement soit connue dans ce pays. Il est encore plus tragique que la haute direction du sionisme américain ait refusé de faire campagne contre les efforts de Begin ou même d'exposer à ses propres éléments les dangers pour Israël que représente le soutien à Begin. Les sous-signés prennent donc ce moyen, donc un article, un éditorial en pleine page du numéro 1 du New York Times, pour présenter publiquement quelques faits frappants au sujet de Begin et de son parti, et pour recommander à tous ceux qui sont concernés de ne pas soutenir cette dernière manifestation du fascisme. Voilà. Bon, alors ça, on a oublié, bien entendu, mais en fait, ça met le doigt sur ce qu'est le lobby sioniste aux États-Unis, et pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, pour le caractériser politiquement. Parce qu'en fait, si on regarde ce qui s'est passé après, Netanyahou et Begin, c'est pas très très différent. La colonisation sur des terres qui ne sont pas des terres israéliennes, ça fait partie de ces façons de faire. Hein. L'installation par Trump de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, alors que c'est tout à fait contraire aux résolutions de l'ONU, ça fait partie aussi de ces façons de faire. Hein. Donc on a ça sous les yeux. C'est important qu'on s'en souvienne avec le recul, parce que ça fait partie de des données de la situation et des évolutions possibles de la situation, parce que pour que ça a été republié, cet article du New York Times récemment, pour bien rappeler ce qu'est devenu Israël depuis 1948 jusqu'à maintenant. Et ça m'amène à une transition qui va de soi, vous allez dire, bon, c'est trop beau, à vous parler de l'Assemblée générale des Nations Unies qui est en cours. Alors, je fais une réserve tout de suite, c'est-à-dire, c'est pas possible de suivre, enfin, il faudrait passer les journées entières et un peu plus pour suivre toutes les interventions à la tribune, et pour en tirer les leçons, mais il y a un certain nombre de moments intéressants. Alors, ce n'est pas forcément les plus importants, vous pouvez en trouver d'autres, je n'ai pas eu le temps de tous les regarder, de tous les écouter, mais on va quand même s'arrêter sur ceux qui m'ont paru les plus performants. Alors, il y a les classiques, on a Biden, on a le ministre des Affaires étrangères russe, on a plus l'habitude de leurs discours. Là, il y a deux choses qui m'ont frappé. Il y a d'une part l'intervention du ministre des Affaires étrangères du Mali. Je vais commencer par lui, Abdoulaye Diop. Alors lui, il a centré son intervention sur la question du Niger, et on peut la titrer comme ça. Le Mali ne veut pas entendre parler d'intervention militaire au Niger et se tient prêt à réagir si celle-ci a lieu. Voilà. Ça, c'est ce que dit Abdoulaye Diop, on l'a déjà entendu à l'antenne, à la tribune de l'ONU. Et ce que fait le ministre de Abdoulaye Diop, c'est il fait le parallèle entre l'intervention de l'OTAN en Libye, qui avait eu lieu avec l'aval de l'ONU, on y reviendra, et il dit une opération qui a semé le chaos dans le pays et provoqué l'expansion du terrorisme au Sahel, incitant à ne pas répéter les erreurs du passé. Ça, c'est ce que dit Abdoulaye Diop. Vous avez vu la Syrie, la Libye, c'est vous qui l'avez détruite. Hein. Le résultat, c'est qu'il y a des terroristes islamistes partout. Hein. Bravo, bravo l'ONU. Hein. Bravo l'ONU, parce que l'ONU a approuvé au Conseil de sécurité, avec l'abstention regrettée depuis, mais enfin elle a eu lieu, donc de la Russie et la Chine qui lui avaient emboîté le pas, une résolution qui a été adoptée donc avec ces deux abstentions, donc qui n'a pas été bloquée, il n'y a pas eu de veto, et donc qui a permis, en la torturant, en lui faisant dire ce qu'elle ne disait pas, de bombarder la Libye et de mener la guerre contre le gouvernement libyen et d'assassiner in fine son chef d'État. Donc, Abdoulaye Diop, il est très clair, on ne laissera pas faire. Hein, et d'ailleurs, on sait qu'il y a un accord maintenant militaire entre le Mali, le Burkina Faso, pour défendre le Niger si jamais le Niger était attaqué. Bon, donc, les affaires sont claires. Et je pense que les affaires sont claires, y compris par ceux à qui on disait d'aller attaquer le Niger. Je pense à Alassane Ouattara, subsidiairement au président du Togo, encore je pense, j'ai l'impression qu'il n'est pas chaud, subsidiairement aussi le président Talon au Bénin, mais je pense qu'il n'est pas chaud non plus. Oui, et le Nigeria lui-même a dit qu'il n'était pas parti pour rien. Donc il n'y a pas grand monde dans cette aventure que voulait entamer Nicolas Sarkozy. Entamer Emmanuel Macron. Un deux mots alors à propos d'Emmanuel Macron, parce que ce qui s'est passé, c'est que les réponses à cette crise du Sahel, donc cette réponse à l'hostilité française manifestée par les populations des différents pays que je viens de citer, s'est traduite d'une façon grotesque par un refus de faire travailler les personnes, femmes, hommes, qui évoluent dans les milieux du spectacle. C'est-à-dire de la culture et du spectacle plus largement. Alors là j'avoue que les bras m'en sont tombés, parce que vous humiliez à la limite, j'allais dire, vous humiliez le paysan burkinabé dans son village, il va se sentir humilié et il le sera, et il va le dire à ses voisins au moment du marché, puis ça s'arrêtera là. Mais vous humiliez une partie de la communauté, qu'elle soit burkinabé, nigérienne, etc., qui passe son temps à circuler, d'abord en Afrique, ils vont chanter dans les pays voisins, à faire des disques, à aller même aux États-Unis ou au Canada. Ils ont des relations population. C'est des gens qui, dans un concert ou dans les concerts, s'ils ont des concerts devant 10 000, des centaines de milliers de personnes dans l'année, peuvent dire un mot sur la politique de la France, et un mot qui ne sera pas très, très élogieux. Donc, c'est une bêtise achevée. Hein. Vous donnez des arguments aux gens qui sont les plus visibles et qui peuvent le plus librement parler à beaucoup de gens et sont écoutés. Parce que c'est des gens qui vendent des cassettes, enfin qui sont sur YouTube et qui sont vus par des millions de personnes. Bon, et c'est eux que vous humiliez en disant « on ne vous veut plus en France ». Mais vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Et j'ai pensé, je me suis dit « mais comment expliquer ça ?» Et je vois... La seule comparaison, Roselyne qui arrive là, va peut-être me trouver autre chose, mais moi je dis, c'est un truc de cours d'école, c'est-à-dire il y a un môme à qui on a pris ses billes et qui hurle, se roule par terre, « Rendez-moi mes billes, rendez-moi mes billes ». Mais où sommes-nous ? Par qui sommes-nous gouvernés ? Et qui donne, alors est-ce que Macron a ses idées tout seul ? Est-ce que quelqu'un les lui souffle ? Je ne sais pas, mais le résultat est catastrophique. Vous avez mis contre vous des gens qui ne sont pas tous forcément politisés, vont et viennent en France, ils ont des copains, ils vont et viennent en Belgique, au Canada, en Suisse, partout, on les écoute sur Internet, sur YouTube, et tout d'un coup vous leur dites qu'on ne les veut plus, qu'ils sont réprouvés parce qu'ils sont de cette nationalité-là. C'est pas du tout des artistes qui ont signé, ou des écrivains qui ont signé des appels pour la défense du Niger ou du Burkina Faso. Non, ils vivent leur vie. Et on leur dit maintenant, alors en fait, on les met au pied du mur en disant « Dites du mal du gouvernement de votre pays, autrement, on vous fait crever de faim. » On est à un niveau de bêtise rarement atteint. Les bras m'en tombent.
Hein ? C'est œil pour œil, dent pour dent.
Oui, mais c'est bêta.
Complètement.
C'est bêta. Voilà. Bon. Donc, c'est dit pour le Mali. Et puis, je vais m'arrêter donc à ce qui me paraît le
morceau. Excuse-moi.
Je t'en prie, vas-y,
Roselyne. Non, juste pour dire qu'il y a eu une intervention de Abdoulaye Diop au Niger, mais il y a aussi Mamadi Doumbouya en Guinée, qui est intervenu sur le même ton, et une autre personne du Burkina, dont je ne me souviens plus du nom, qui est intervenue également sur le même ton à l'ONU.
Voilà. Alors, le Burkinabé... produit un discours. Alors, ça se tourne toujours autour de 30 minutes, hein, les discours à l'Assemblée générale de l'ONU. Et il a fait un discours très, très habile. Alors, vous ne le connaissez pas. Enfin, c'est la première fois qu'on le voit apparaître à la une, disons, de la presse. Il s'appelle Bassolma Bazier. Il est président... Il est ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail, etc. Bon. Alors, c'est pas le ministre des Affaires étrangères, mais on a dû l'envoyer lui parce qu'il était prêt à le faire, il avait quelque chose à dire, et effectivement, il avait quelque chose à dire. Alors, si vous tapez ce nom, Bassolma Bazier, B-A-2-S-O-L-M-A, Bazier, B-A-Z-I-E, je pense que vous retrouverez son discours à l'ONU. À défaut, je fais cette proposition qui vaut pour toutes les émissions que nous faisons. Si vous ne trouvez pas, vous envoyez un mail à comaguerre@orange.fr, vous faites un courrier à la radio, on vous l'envoie. Hein, il y a quand même 12 pages très consistantes, très intéressantes, qui méritent d'être lues parce qu'elles marquent là aussi un tournant dans la façon dont les pays africains et leurs gouvernements parlent de la France, et pas que de la France. Et elle marque un tournant parce que qu'est-ce qu'il dit ? Alors il commence par « Au nom du peuple burkinabé, je m'incline respectueusement sur la mémoire des grands leaders dans le monde ». Ça commence bien. Et qui il cite dans les grands leaders ? Il commence par Fidel Castro, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, Ruben Umiobe et Félix Mumé les Camerounais, Sylvanus Olympio du Togo. Alors je m'arrête un peu sur Sylvanus Olympio du Togo parce qu'il est peu connu. Il est peu connu parce qu'il est mort il y a longtemps. C'est-à-dire qu'au moment où la France, très généreusement, accorde l'indépendance à ses colonies d'Afrique, pour éviter que ça se fasse à la mode algérienne, c'est-à-dire les armes à la main, il arrive au pouvoir un monsieur qui est Sylvanus Olympio et qui dit « Maintenant, on n'est pas fâchés, on s'en bat, on est des grands. S'il y a des indemnités, si vous avez des choses, on discute tranquillement. » Bon, ça ne plaît pas du tout, ce discours, qui est un vrai discours indépendant. Je suis indépendant, maintenant on est à égalité et on discute de la passation, de tout ce qu'il y a, de vos immeubles, de vos intérêts, etc. Et comme ça ne plaît pas du tout au colonialisme, parce que ce n'est pas du tout comme ça qu'il voyait les affaires, il les voyait à la mode, Fouette-Boigny, Senghor, le président Sylvanus Olympio est assassiné par le monsieur dont le fils est encore aujourd'hui au pouvoir au Togo, qui était un gendarme du service d'ordre. Hein. Bon. C'est pour ça que je m'arrêtais là-dessus, parce qu'il est peu connu. Alors ensuite, il cite le Che, il cite Martin Luther King et Malcolm, il cite Nelson Mandela, Jomo Kenyatta au Kenya, Amilcar Cabral pour la Guinée-Bissau, Marianne Gwabi, qu'on connaît moins, pour le Congo-Brazza, et Sankara. Bon. Et il dit, il y en a d'autres. Hein. Voilà, voilà, c'est parrains, ceux sur lesquels il s'abrite pour dire, voilà, moi je suis la suite de ça. Rendez-vous bien compte, qui n'est pas tout à fait rien quand même, même s'il y a eu beaucoup d'assassinés là-dedans, pas tous, mais Fidel Castro s'en est sorti, Lubumba non, Nkrumah oui, Modibo Keïta non, les deux Camerounais ont été éliminés, Sylvanus Olympe-Ogidi est mort, le Che a été assassiné, Martin Luther King a été assassiné, Malcolm X aussi, Mandela y a réchappé, Cabral a été assassiné, Nguabi a été assassiné. Voilà, ça se termine très mal, d'une façon générale, c'est velléité d'indépendance. Et puis il commence, et c'est très adroit de sa part, il dit « J'ai écouté les grands discours qui ont entamé cette Assemblée générale. » Et il cite quatre personnes, son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général, son Excellence M. c'est lui qui le dit, c'est pas moi, hein, Joe Biden, son Excellence M. Denis Francis, là vous connaissez moins, parce que c'est le président de cette Assemblée générale, c'est le président de Trinidad et Tobago, c'est une petite île des Caraïbes, et son Excellence M. Luis Ignacio Lula da Silva, président de la République fédérative du Brésil. Il dit, voilà, ben, je me réfère à ces personnages, parce que ces personnages, par différentes phrases qu'ils ont énoncées au cours de leur discours, ont dit un certain nombre de choses sur lesquelles je vais m'arrêter. Alors je prends ma page 2, n'inquiétez pas, je vais la trouver. Je l'ai. Voilà. Alors page 1, ça c'est donc du Gutiérrez pur jus. Nous sommes dans un monde sans dessus-dessous. Ça on avait compris. Des cadavres jonchent les plages où des milliardaires se prélassent. Alors j'aime bien le raccourci, hein. Entre, effectivement, les migrants qui traversent la Méditerranée et qu'on retrouve sur les plages, et sur d'autres plages, c'est pas les mêmes d'ailleurs, des milliardaires se prennent. Ça, c'est du Guterres, bien, bien vu, c'est joliment écrit. Bon, après, les actes sont peut-être pas tout à fait à la hauteur. Ensuite, il s'en prend, il cite, parce qu'il s'en prend pas, il cite donc Biden. Biden qui dit « Nous sommes à la croisée des chemins ». Ah, bon, donc quand on dit à la croisée des chemins, ça veut dire que c'est un moment difficile quand même. Nous avons une cause commune, à savoir léguer à nos enfants un monde avec un bon climat social. Parfait, je signe tout de suite, moi, quand on me dit ça. Mm-hmm. Bon, alors effectivement, après, vous allez voir, il dit, mais les actes et les paroles, ça ne colle pas dans vos affaires, hein, c'est pas très bien. Le troisième, donc le président en exercice, le président de Trinidad et Tobago, qui dit, malgré les difficultés, nous pouvons nous en sortir, ce ne sont pas les capacités qui manquent, mais la volonté politique. Ah, donc il y a les moyens, mais simplement, on ne les met pas en œuvre. Hein. Alors, dans le cas des États-Unis, c'est effectivement flagrant, mais il n'y a pas que là. Sinon, nous pouvons apporter le progrès et la paix pour tous. Hein. C'est tout à fait clair. Et ça, c'est parfaitement reçu à l'Assemblée générale. Le quatrième, c'est Lula, et qui dit « Il y a dissonance entre les discours et les pratiques ». Là aussi, il met le doigt dessus. Le Conseil de sécurité de l'ONU est paralysé. Hein, parce que chaque fois, c'est des blocages, des vétos, etc. Alors je rappelle que le principal utilisateur du veto, c'est les États-Unis, mais il arrive maintenant, et de plus en plus, que la Russie et la Chine soient obligés d'en user de la même façon. Et il ajoute, donc Lula, « L'ONU doit assumer ses fonctions d'un monde solidaire et équitable, conformément aux principes édictés dans la charte. Cela suppose qu'on ait le courage de lutter contre les inégalités. » Ah. Et qu'est-ce qu'il dit notre brave Bassolma Bazier? Mais il dit, si vous dites ça et si vous le faites, tout le monde est heureux. C'est le bonheur sur la planète. On est 8 milliards et on danse ce soir. Hein, fête sur la table, la place du village. Bon, alors il dit, le problème, c'est que... Il dit, la quintessence des expressions de ces quatre autres personnalités signifie clairement que les inégalités dans le monde sont voulues, sinon qu'avec un minimum de courage et de volonté politique, nous pouvons... à défaut de les éradiquer, vous voyez, il n'est même pas trop ambitieux, les amenuiser à leur expression congrue. Et il ajoute, en effet, chaque année, les discours pleuvent au même titre que les promesses et les engagements. Les preuves de la dissonance entre les discours et les faits sur ces questions de principe contenues dans la charte de l'ONU, dont la justice, l'égalité, la dignité, l'intégrité, le droit à l'autodétermination, la souveraineté des États, l'inviolabilité du territoire et le respect du droit international, sont ce qui se passe en Libye, dans le Sahel, précisément au Niger, et sur la crise entre la Russie et l'Ukraine. Alors il commence par la Libye. Là, il y a un long développement sur la Libye pour rappeler ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est effectivement l'OTAN, et Sarkozy en tête, puisqu'il a été le porte porte-glaive, j'allais dire, de l'OTAN dans l'opération, qui a mis la Libye dans l'état dans lequel elle se trouve. Et à un moment donné, il va rappeler qu'effectivement, la condescendance ou la main tendue aux Libyens qui sont en train de mourir par dizaines de milliers à la suite de la catastrophe d'il y a 15 jours n'est pas tout à fait au rendez-vous. Donc on a tout, on a mis ce pays à bas. Il est divisé aujourd'hui. Les forces qui lui étaient hostiles se sont répandues et il dit en fait l'origine de la crise du Sahel, elle est là, le fait qu'il n'y a plus la Libye qui tient et donc les armes vont et viennent, les djihadistes rentrent et sortent, s'approvisionnent, etc. etc. Bon. Je signale, parce que ça m'a fait rire, que l'Égypte a fait un geste par rapport à la catastrophe en Libye. Ils ont envoyé le porte-hélicoptère Mistral. Vous vous souvenez de l'histoire ? Le porte-hélicoptère Mistral, qui était donc un porte-hélicoptère, il y en avait deux du même type, qui était en construction à Saint-Nazaire pour le compte de la Fédération de Russie. Et vous savez qu'à un moment donné, François Hollande a baissé pavillon, je suis gentil dans l'expression. Il a reçu un ordre des États-Unis pour dire il ne faut pas vendre ces deux bâtiments à la Russie. Alors effectivement, ça a coûté un peu cher au Trésor français, puisqu'il y a quand même un contrat qui a été violé. Et finalement, c'est l'Égypte qui a acheté un de ses porte-hélicoptères, et c'est un de ses porte-hélicoptères qui est venu s'installer sur la côte libyenne comme bâtiment hôpital. Bon, comme quoi, l'histoire se recoupe quelquefois. Bon, et donc, long développement sur la Libye, c'est pas la peine que j'en dise plus, on s'en est déjà largement occupé dans d'autres émissions, mais il met beaucoup le doigt dessus. Et après, il va continuer sur ce ton-là, et il s'en prend à la crise actuelle dans le Sahel. « Oui, cher continent africain, une poignée de tes enfants, alors on voit qui est visé, hein, les Ouattara et autres, a décidé de t'humilier et de te vilipender à travers le mensonge éhonté d'État en commençant par le Niger. Par conséquent, je lance un appel vibrant et solennel au peuple sénégalais, béninois, nigérian, ghanéen, tchadien, ivoirien, comorien, bissau-guinéen et tous les peuples d'Afrique à se mobiliser davantage dans la fraternité et la solidarité africaine afin d'éviter que les impérialistes mettent le feu au Niger comme ils ont fait, hélas, en Libye. Hein ? C'est tout à fait clair comme position de fond et je la salue. Et il dit, j'insiste à cette tribune de l'ONU et devant le monde entier que la CEDEAO, qui devrait être le bras armé des colonialistes, l'Union africaine et l'ONU doivent impérativement se muer en des organisations véritables des peuples en lieu et place de structures d'une minorité de chefs d'État. Elles ne doivent pas être utilisées et instrumentalisées pour déstabiliser des pays frères en assassinant leurs leaders. Ce n'est qu'à ce prix que la charte d'ONU et le droit international auront un sens. Vous voyez que ça va assez loin dans l'expression. Et il ajoute, parce qu'il dit un mot quand même sur le terrorisme, « Le Mali, le Niger et le Burkina font face à cette guerre qui leur a été imposée par l'impérialisme sous le couvert de terroristes de tous acabits semant la terreur et la désolation. » Là, ici, Takmi, Daesh, etc. Malgré l'existence de cette même charte des Nations Unies, avec ses principes d'égalité, de justice d'une part et d'autre part, du même droit international invoqué à cette tribune, il y a nettement un fossé abyssal dans le traitement des questions. Bon. Alors sur la question du Niger, j'ajoute une chose, c'est que d'une part, l'ancien président du Niger, le président Issoufou, a commencé à dire « mais c'est complètement fou de faire une intervention militaire ». Il a dit « moi je suis tout à fait opposé à une intervention militaire ». Donc ça commence à... Issoufou était un ami de la France, hein, faut dire. Il commence
un ancien avant Bazoum.
Oui, avant Bazoum, oui, avant le président qui est parti. Hein. Bazoum lui-même, le parti de Bazoum a commencé à dire, et ça y est, c'est écrit, c'est peut-être pas intelligent de faire une intervention militaire. Donc il s'est en train de craquer et il reste plus, à mon avis, aujourd'hui, comme va-t-en-guerre, encore décidé, encore que, je ne sais pas s'il est vraiment décidé ou s'il meurt de peur, qu'Alassane Ouattara. Bon, donc je pense qu'il ne pourra pas aller très très loin, d'autant plus que Paris va quand même peut-être faire ses comptes en disant maintenant, vu tout ce qui s'est dit à la tribune de l'ONU, on ne va pas aller beaucoup plus loin. Et je vais en finir avec une autre, parce que évidemment, M. Macron n'a pas été oublié, puisqu'il a été repris sur le discours qu'il a tenu sur la démographie africaine. Souvenez-vous, c'était il y a 2 ou 3 ans, Macron s'est dit à dire « Ils sont insupportables, ces Africains, il y a tellement d'enfants qu'on ne sait plus où les mettre, etc. Ils viennent chez nous. » Bon, une sottise achevée. Et là, alors, permettez-moi de fouillé dans mes 12 pages de discours parce que je ne veux pas laisser passer ça. Je ne veux pas laisser passer ça. Et il dit, alors il dit, écoutez bien parce qu'il a travaillé son dossier. L'Allemagne compte 83 millions d'habitants sur une superficie de 347 000 km². Face au Congo, qui a 95 millions d'habitants sur une surface de 2 300 000, donc à peu près 8 fois plus, hein, donc pratiquement la même population sur 8 fois plus. Alors c'est quoi la densité africaine, hein? Il y a trop d'Africains? Et non, c'est sous-peuplé le Congo comparativement à l'Allemagne. Et il continue dans le même sens. La Belgique compte 11 millions d'habitants sur une superficie de 30 000 km² face au Gabon qui a 2,5 millions d'habitants sur une superficie de 267 000 km², donc presque 10 fois plus grand. Donc qui est surpeuplé? Ben c'est la Belgique qui est surpeuplée, manifestement. Bon, il se trouve que les Belges, la majorité d'entre eux, mangent tous les jours à leur faim. Donc, le problème doit être ailleurs. C'est pas un problème de trop de naissances. Hein. C'est pas ça la question. La France compte environ, alors on arrive à la France, il en arrive à la France, compte environ 68 millions d'habitants sur 672 000 km² face à la Namibie qui compte 2,5 millions d'habitants sur 825 000 km². La Namibie, c'est un petit peu plus grand que la France, mais effectivement, ils sont que 2,5 millions. Alors, je cite parce que c'est dans l'actualité. Soyez pas surpris et ne vous rengorgez pas quand l'équipe de France de rugby massacre l'équipe de Namibie. C'est l'équipe d'un pays de 2,5 millions d'habitants, hein, avec pas beaucoup d'argent. Hein. Alors après, on dit « Oh, ils sont forts ben !» Bon. Alors, vous voyez que l'esprit colonial, il va s'infiltrer dans des endroits où on l'attend pas. Sur un résultat de rugby, ben, les Namibiens, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont une équipe qui a quand même été qualifiée pour aller à la Coupe du Monde de rugby. Mais vous ne pouvez pas faire de miracle, ils ne sont que 2,5 millions. Hein. Oui.
On arrête.
Voilà. Alors, voilà, donc j'en finis là-dessus. Il y a beaucoup de choses. Alors, le discours fait 12 pages. Il y a quelques chiffres. Il y a 1 milliard de personnes qui sont dans la misère. 2 000 milliards de dollars pour la défense et l'armement. Enfin, il cite toute une série de chiffres. Donc, je vous invite à chercher ce discours qui fera date, à mon avis, de M. Bassoulma Biazé sur le net. Et si jamais, je réitère, si jamais vous ne le trouvez pas, vous envoyez un mail à la radio ou à Comaguerre et on vous le fait passer. Parce que c'est un discours tournant, c'est-à-dire où tout est abordé et où, bien entendu, la République française ne peut sortir qu'avec la queue basse, mais elle l'a bien voulu. Donc c'était ça que je voulais dire. Je remercie Sidi pour son intervention. On va finir peut-être par la petite musique que j'ai sélectionnée. Et puis on se retrouvera, bien entendu, la semaine prochaine pour, d'une part, l'émission hebdo, et puis je crois que ce sera, non, la semaine d'après, l'émission mensuelle. Voilà, merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.
Dominan el mundo dos superpotencias y un curioso lío de interdependencias. Eso es lo que llaman concierto mundial. Y más que un concierto, es un berenjenal. No resulta extraño que el mundo se alarme cuando se reúnen a hablar de desarme. Pues así que empiezan las negociaciones. Encima la mesa ponen los cañones. Y la OTAN, rataplan. Ay, Felipe, no te nos retrase, ya ves lo que hace con lo de la OTAN. Se tiran del moño y ruedan por tierra y son como niños jugando a la guerra.
Yo tengo una bomba llena de neutrones.
¿Ah?
Sin romper un plato los mata montones.
Para que te chinches, yo tengo un misil.
¿Y un misil?
Que de un zambombazo revienta 100,000.
Oh, shit. Que tiro la bomba.
Que aprieta el botón.
Mariquita, el último.
Mariquita, el último.
Madre, qué follón.
Y la OTAN. Rataplan.
Ay, Felipe, no te no retrase y a ver lo que hace con lo de la OTAN. Que un botón resulta fácil de accionar y cualquier capullo lo puede apretar. Si te pilla en medio, si te pilla en medio, al darle al botón, te abotonarán sin contemplación. Cuando esto reviente duras un minuto y no queda nadie que te lleve el luto. Y por lo que cuentan, y por lo que cuentan, muy pronto deduces que aunque dure poco es todo un minuto. Cagando al tramuces. Y la OTAN. Rataplan, rataplan, rataplan. Rataplan, rataplan, rataplan. Ay, Felipe, no te nos retrase y a ver lo que hace con lo de la OTAN. Rataplan, rataplan.